Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Les déplacés des Ro dans les territoires de Djougou en Ituri ont reçu ce mardi la visite du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix leur a rassuré que les Nations Unies vont continuer à appuyer la RDC pour restaurer la paix. Kinshasa abritera jeudi prochain la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. En prélude aux assises, les ministres des Affaires étrangères ont entamé aujourd'hui la réunion préparatoire. Notre invité, c'est le directeur de la prison de Kangbayi à Beni, Tsongo Makelele, parle des projets réalisés par la MONUSCO sur l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie des détenus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Mimi Kindou. Les Nations Unies n'ont pas oublié la population de la province de l'Ituri et vont continuer à appuyer le gouvernement congolais pour restaurer la paix. C'est l'essentiel du message du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix lors de sa visite au site des déplacés des Ro dans les territoires de Djougou en Ituri. Jean-Pierre Lacroix y est allé en compagnie du ministre de la Défense national Gilbert Kabanda Kourenga pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire. Le compte-rendu d'Isaac Remoyope.
Pendant sa visite de quelques heures à Ro, environ 80 km de Bounia dans les territoires de Djougou, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec des chefs coutumiers, les notables et acteurs de la société civile, ainsi que les humanitaires. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Ituri pour leur permettre de regagner leur milieu d'origine. Cela en utilisant tous les mécanismes possibles, à savoir les négociations, la force ou le désarmement des groupes armés. Tous se disent lassés de compter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations des droits de l'homme commises par les groupes armés. Et concernant la situation humanitaire, les conditions de vie des déplacés sont très préoccupantes. Les humanitaires ont déclaré que les besoins sont énormes par rapport aux ressources disponibles pour soulager les souffrances de ces personnes vulnérables. Pour ces différents groupes, le passage du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU leur donne l'assurance d'une solution à leurs problèmes. De son côté, Jean-Pierre Lacroix a déclaré que l'ONU va renforcer son soutien au gouvernement pour le maintien de la paix, le processus de désarmement des groupes armés et l'aide humanitaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pour sa part, le ministre de la Défense nationale rassure la population de la détermination du gouvernement congolais à pacifier la province de l'Ituri. Pour cela, Gilbert Kabanda Kourenga a annoncé le renforcement des effectifs des FRDC pour imposer la paix et permettre ainsi le retour des déplacés dans leur village d'origine. N'est-ce pas, Isaac Remoyope?
Parmi les dispositions prises par le gouvernement sur la situation sécuritaire en Ituri, le ministre de la Défense a reconnu d'abord la nécessité de renforcer l'effectif des militaires des FARDC dans cette province. C'est là pour deux objectifs. D'abord, pour imposer la paix dans le cadre de l'état de siège, puis pour sécuriser la population dans leur village d'origine où parfois il n'y a pas de militaires. Il a déclaré que des équipements militaires sont disponibles pour atteindre ces objectifs. Dans le cadre humanitaire, il a annoncé l'installation d'un hôpital militaire qui sera accompagné du déploiement du génie militaire pour aider des milliers de déplacés dans la zone, notamment dans les travaux de reconstruction des infrastructures. Le ministre de la Défense a rassuré la population que dans un mois, toutes ces mesures seront appliquées pour répondre à leurs préoccupations. Afin, pour Gilbert Kabanda, le gouvernement de la RDC est conscient des souffrances de la population de l'Ituri, victime des atrocités des groupes armés, et met tout en œuvre pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'insécurité, a-t-il conclu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On reste en Ituri où 17 présumés criminels, dont deux miliciens de la FPIC, sont arrêtés par les forces de l'ordre qui ont également récupéré à l'occasion 5 armées de guerre. C'était lors des opérations d'investigation menées à Bounia. Les responsables de la police nationale dans cette province affirment que cette action vise notamment à sécuriser la population contre les menaces des hommes armés et lutter en même temps contre le banditisme dans la ville. Retrouvons une fois encore Isaac Remoyope.
Parmi ces malfrats, il y a 6 bandits armés qui sèmaient la terreur. Ils ont été appréhendés pendant les patrouilles de la police avec plusieurs biens volés dans des habitations. Selon la police, ils détenaient 4 armes et des munitions qui ont été récupérées par les patrouilleurs. L'armée a également arrêté 2 miliciens de la FPIC avec une arme et des munitions. C'était lors des combats dimanche entre les FADC et cette milice au village de Nderemi, à une dizaine de kilomètres de Bounia dans le territoire d'Iromou. Toutes ces personnes sont poursuivies pour participation à un mouvement insurrectionnel et à main armée. Elles seront transférées à la juridiction compétente pour l'inscription de leur dossier, affirmé des sources de la police, signalant que la population de Bounia vit dans une psychose à cause de l'insécurité due à la présence des hommes armés au chef-lieu de la province et à la périphérie où les opérations militaires contre les groupes armés sont en cours. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba se sont réunis ce mardi ici à Kinshasa. C'est un prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu jeudi prochain. À l'ouverture des assises aujourd'hui, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs s'est dit satisfait de ces assises. Et le ministre congolais de la coopération régionale se réjouit lui aussi des avancées obtenues dans la mise en œuvre de cet accord, un accord qui totalise 9 ans cette année. Des avancées significatives comme le renforcement sur la RDC de la lutte contre les groupes armés sur le territoire national et la volonté affichée d'encourager les projets de développement en faveur des populations, comme l'explique Dona Madimba.
La réunion des présidents de ce jeudi peut enfin commencer en toute tranquillité. Les ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre, les garants ou leurs délégués viennent de conclure leurs assises préparatoires. À la clé, le communiqué final qui est de qualité selon l'envoyé spécial de l'ONU dans la région des Grands Lacs qui ne pouvait en dire plus à ce stade. La primeur étant réservée au chef d'État. Au début, les préparatifs de ce mardi, l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris la parole ce matin ont exprimé leur satisfaction des avancées obtenues à ce jour dans l'application de l'accord cadre, même si de nombreux défis demeurent encore à ce jour à relever. Depuis l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, Dona Madimba, Radio Okapi.
Santé à présent, avec la flambée de la fièvre typhoïde dans la zone de santé de Popokabaka, dans la province du Kwango, le bilan fait état de 2 décès signalés et 1400 cas sont enregistrés depuis le début de l'année. Docteur François Mwakisenda, épidémiologiste à la division provinciale de la santé, parle du manque de moyens pour prendre en charge les malades. À Bandundouville, Irène Boma.
Dans un entretien, le docteur François Mwakisenda a indiqué que la zone de santé de Popokabaka a déjà enregistré plus de 1458 cas de fièvre typhoïde depuis le début de l'année en cours. D'après ces médecins épidémiologistes de la division provinciale de la santé du Kwango, il y a eu aussi des complications dont les perforations intestinales et des décès. Presque toutes les tranches d'âge sont concernées et cela dans presque toutes les aires de santé, a-t-il déclaré. Et d'ajouter que plusieurs difficultés sont rencontrés dans la prise en charge de cette flambée des cas.
Les difficultés sont énormes. La nuit passée, la zone avait connu aussi une flambée, mais il y a eu une intervention des Médecins sans frontières. Ils avaient amené quelques kits de prise en charge. Après ça, il n'y a aucun partenaire qui s'est présenté pour appuyer la zone. En ce qui concerne la prise en charge, ils sont limités.
Docteur François Mwakisenda n'a pas manqué à sensibiliser la population sur la prévention de cette maladie dite des mains sales.
La fièvre typhoïde, c'est parmi les maladies des mains sales où il fallait les respects de l'hygiène des mains et puis l'hygiène alimentaire et l'eau des boissons. Donc c'est ce que la zone est en train de faire, c'est plus la sensibilisation.
Signalons qu'à part cette flambée des cas de fièvre typhoïde, la zone de santé de Popokabaka est aussi touchée par la rougeole, a dit la même source. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, résurgence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Luputa, territoire de Luilu, au Lomami. Le chef de division de la santé publique affirme à Radio Okapi que 11 enfants de moins de 5 ans sont malades après les résultats des échantillons qui ont été examinés au laboratoire de l'INRB. Une centaine d'autres enfants de moins de 5 ans présentent ces jours-ci les symptômes de rougeole depuis quelques jours. Docteur Fred Boulobo lie cette situation à la malnutrition sévère et à la non-vaccination de beaucoup d'enfants. Il a été joint par Esther Dalafina.
Pour les cas, un grand nombre de ces enfants n'ont pas été vaccinés pour des raisons ou pour d'autres. Et pratiquement les parents, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites, n'ont pas pu amener leurs enfants aux séances de vaccination. Mais nous avons aussi des enfants qui ont été bien vaccinés, mais qui font carrément une rougeole que nous disons atténuée, c'est-à-dire une rougeole qui ne va pas tellement amener jusqu'à la mort, mais qui peut facilement être gérée. Nous avons renforcé un système de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire rechercher activement tous les cas suspects de rougeole au niveau de la zone santé, que ce soit dans la communauté, plus particulièrement chez les tradis praticiens, au niveau des églises et toutes les autres formations sanitaires, de sorte à reconnaître et identifier tous ces enfants. En deuxième lieu, c'est le renforcement de la vaccination de routine et avec communication et sensibilisation des parents, de sorte qu'ils amènent leurs enfants, qu'on puisse les vacciner davantage. Et nous avons leur prise en charge pour ceux qui sont déjà malades atteints de rougeole. On est en train de les soigner pour pouvoir limiter la mortalité. Les médicaments sont disponibles dans les formations sanitaires. Nous allons lancer déjà un appel à nos partenaires traditionnels pour que nous puissions avoir un appui supplémentaire.
Et puis une crise alimentaire s'observe ce jour-ci à Malembankoulou, un territoire de la province du Olomami, d'où les cas de malnutrition enregistrés chez les enfants. Les champs ayant été détruits par les éléphants et les fortes pluies, les habitants de la contrée sollicitent par conséquent l'implication ou alors une assistance humanitaire. Pour en parler, retrouvons Lubumbashi Jean Gandou.
Pour le chef de service humanitaire dans le chef-lieu du territoire de Malembankoulou, cette situation est causée par le fait que plusieurs ménages ont perdu leurs champs. Pour les uns, les champs de maïs ont été dévastés par les éléphants en divagation. Pour les autres, des grandes étendues de champs de manioc ont été inondées. Du coup, la population se trouve confrontée au problème de manque de nourriture, surtout que le maïs et le manioc constituent l'aliment de base pour les habitants de ce territoire. D'après la même source, pour le moment, c'est le territoire des Congolos dans le Tanganyika qui alimente Malembankoulou. Le sac de manioc qui coûtait 65 000 francs congolais se négocie actuellement à 120 000 francs congolais. Un seau de maïs de 2,5 kg est passé de 2 500 à 4 500 voire 5 000 francs congolais, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et de nombreux enfants souffrent déjà de la malnutrition. Confucius Inabanzakabang rappelle que ceux qui ont perdu leur champ sont estimés à plus de 82 000 personnes. Confirmation de Paul Senga, député provincial élu du territoire de Malembankoulou.
La Malembankoulou, l'entité la plus grande, la population vit dans une situation précaire. La baisse des produits dans la zone s'observe depuis quelque temps. L'aide humanitaire s'avère urgente.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On passe au Sud Kivu où une hausse désordonnée du prix de l'essence est constatée depuis quelques jours à Bukavu. C'est suite à une pénurie de l'essence à cause d'une baisse de production dans les pays producteurs, selon certains pétroliers contactés. D'autres précisions avec vous, Cynthia Bachizina Bizana.
L'essence devient rare à la pompe dans la ville de Bukavu. Et là où les automobilistes peuvent encore le trouver, il se négocie entre 2500 francs et 2900 francs congolais, voire 3000 francs congolais le litre chez le petit revendeur, dit Kadhafi. C'est ainsi que certains tenanciers des stations-service ont décidé de ne vendre qu'à leurs abonnés ou à des clients privilégiés. Tindja Chihubagala, président du club des pétroliers du Sud Kivu, dénonce cette hausse désordonnée du prix de l'essence. Il invite les membres affiliés à cette corporation à respecter la structure de prix officielle, soit 2450 francs congolais par litre. Bukavu est ravitaillé en carburant principalement par le Rwanda et la Tanzanie, mais ces pays connaissent également une rareté de l'essence du fait de la pénurie à l'échelle internationale. Tindja Chihubagala espère un retour à la normale d'ici la semaine prochaine. Pendant ce temps, cette situation a des répercussions sur les prix de course dans les transports en commun. Là aussi, des usagers se plaignent d'une hausse selon le bon vouloir du chauffeur. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Ainsi que vous le savez, Radio Okapi a vu le jour en RDC dans le contexte du conflit armé en 1998. À l'époque, la radio onusienne avait servi de pont humanitaire entre les zones sous administration rebelle et gouvernementale. Radio Okapi a pris une part active à la réunification des familles des déplacés de guerre et des enfants soldats cas de l'ex-Équateur. Mbandaka, Paul Richard Malengela.
Pendant le conflit armé de 1998 à 2003, le Grand Équateur a été administré dans sa partie nord par le mouvement de libération du Congo MLC et sa partie sud par le gouvernement de Kinshasa. Plusieurs familles ont été divisées. Difficile alors à Roger Taoké Mbelenga, déplacé de guerre en Mbandaka, de retrouver les traces des siens. Il témoigne le rôle que Radio Okapi a joué pour faciliter leur retrouvaille.
C'est Okapi qui nous a aidés avec la sensibilisation pour que nous aussi, de notre côté, comme étant déplacés de guerre, puissions avoir les cœurs apaisés, en sorte que nous attendons qu'un jour, chacun de nous va regagner son milieu d'origine.
Toujours à l'époque, dans l'ancien district du Nord-Ubangi, Marcel Tote, secrétaire exécutif de l'ONG APEE, dit avoir également bénéficié de l'appui de Radio Okapi dans ses activités.
La présence de Radio Okapi à Gbadolit, là où était le siège de MLC, nous facilitait la tâche, parce qu'on avait des informations à communiquer aux collègues qui étaient à Goma, ou bien à Bukavu, ou bien à Kisangani, pour qu'on puisse arriver à identifier, à entrer en contact avec les parents.
Après 20 ans de service, ce lien de connexion familiale que Radio Okapi demeure toujours solide, car cette radio me permet de capter à partir de Mbandaka les infos de mon Kasai natal. Se féliciter Boniface Kabasele. Mbandaka pour Chamalingué, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au lendemain de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des provinces ukrainiennes pro-russes, le chancelier allemand Olaf Scholz annonce aujourd'hui suspendre carrément l'autorisation du gazoduc controversé reliant la Russie à l'Allemagne. C'est l'une des premières sanctions après le discours prononcé hier soir par le président russe Vladimir Poutine. En République centrafricaine, 4 militaires français de la MINUSCA ont été arrêtés lundi après-midi par la gendarmerie nationale à l'aéroport de Bangui. Immédiatement, leurs images ont été diffusées sur les réseaux sociaux accompagnées d'accusations de tentatives d'assassinat du président Archange Touadéra. L'ambassade de France et les Nations Unies dénoncent une opération de désinformation grossière.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de la prison centrale de Kangwayi à Beni, au Nord Kivu, Tsongo Makelele, parle des projets réalisés par la MONUSCO depuis le mois de juin 2021 sur l'amélioration de la sécurité et des conditions de vie des détenus. Il s'entretient à ces sujets avec Marc Marofimbo.
Monsieur le directeur Tsongo Makelele, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
La MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, a exécuté certains projets d'importance capitale pour l'amélioration de la vie des détenus dans la prison centrale Kangwayi de Beni. Peut-on en avoir une idée générale?
Oui, effectivement, la prison de Beni a été bénéficiaire de plusieurs projets de la MONUSCO. Et le premier aspect, c'était dans l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Il y a des toilettes qui ont été réhabilitées, qui ont été débouchées par la MONUSCO. Donc la MONUSCO a changé le système de toilettes. C'est vraiment un appui parce que c'était catastrophe. Imaginez une population de 900 personnes sur 3 toilettes, mais aujourd'hui, grâce à la MONUSCO, les toilettes sont réhabilitées. Au niveau même de l'alimentation, vous avez même constaté avec nous que les jardins et le chat de Kangwayi est maintenant exploité. Nous avons même commencé à produire. Parce que la semaine passée, nous avons récolté des maïs que nous avons mis à la disposition des détenus dans les stades d'améliorer leur alimentation. Dans toutes ces activités, nous avons utilisé 45 détenus. Parce que nous avons, il y a ceux qui font les champs, ceux qui sont au moulin et ceux-là qui font le travail au niveau du poulailler à la prison des femmes. Et même à l'entrée de la prison, vous allez constater qu'il y a déjà une petite maisonnette qui est installée là. C'était toujours grâce à la MONUSCO. Nous avons déjà un moulin opérationnel et c'est toujours dans le sens d'améliorer les conditions des détenus. Et au niveau de la prison pour femmes, il y a déjà un poulailler qui est opérationnel. Bientôt, nous allons mettre à disposition de la population une grande quantité de poules. C'est ça dans le sens général que nous avons réalisé, la MONUSCO a réalisé au niveau de la prison de Beni.
Les partenaires au gouvernement dans ces domaines sont à pied d'œuvre avec tous ces projets dont vous venez d'énumérer. Est-ce suffisant? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour une amélioration nette de la vie des détenus?
Bon, comme je suis en train de vous dire que nous devons exploiter à part ce que nous recevons du gouvernement central, mais nous-mêmes, nous devons produire. Je vous ai dit que nous avons déjà commencé à récolter le maïs et d'ici là, nous allons mettre à la disposition de la population des poules. c'est toujours dans le sens d'améliorer les conditions des détenus. Et dans l'aspect sécuritaire, vous allez constater avec moi, il y a déjà une clôture qui est érigée sur toute l'étendue de la construction de la prison. C'est toujours la MONUSCO qui a fait cette activité. C'est dans ce sens que vraiment nous remercions tout ce que MONUSCO a fait au niveau de la prison de Beni pour améliorer la condition des détenus et même l'aspect sécuritaire.
Et monsieur le directeur, s'il faut penser à un autre projet très utile pour l'amélioration de la vie des détenus pendant leur temps ici dans la maison carcérale et même après quand ils seront à nouveau dans la société, lequel serait vraiment prioritaire?
Bon, en fait, nous sommes en train de réfléchir parce que les détenus qui sont là-bas, ils doivent aussi apprendre quelque chose. Alors nous sommes en train de concevoir un projet de menuiserie si on peut sélectionner certains détenus et qui pourront être formés à menuiserie et au sortir de la prison, ils pourront même continuer à exécuter ces activités même quand ils seront à liberté. C'est ce qu'on parle de la réinsertion des détenus.
Et pour le cas précis de la prison centrale de Kangwa, il y a aussi un problème de surpopulation carcérale. Alors que depuis un certain temps, un mécanisme a été mis en place de désengorgement de cette maison carcérale. Où en est-on aujourd'hui?
Nous félicitons beaucoup l'auditeur militaire de garnison par rapport à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de désengorger la prison, à libérer les cabinets. Et d'ici là, il y a déjà la grâce présidentielle que nous avons exécutée. Il y a certains des détenus qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Et d'ici là, l'auditeur va passer pour exécuter ça avec le maire de la ville.
Monsieur le directeur Tsongo Makelele, nous vous disons merci.
Nous vous remercions également, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de la prison centrale de Kangwayi à Beni, au Nord Kivu, Tsongo Makelele, interviewé par Marc Marofimo. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Élisée Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Martin Zebujangwe. Retrouvez-le sur www.radiookapi.net.